Chapitre 10. La porte noire s'ouvre. Deux jours plus tard, l'armée de l'Ouest était assemblée dans son entier sur le Pélénor. Les troupes d'Orques et d'Orientais étaient ressorties de la Norienne, mais harcelées et dispersées par les Rohirrim, elles s'étaient débandées et avaient fui vers Cair Andros sans grande résistance. Cette menace écartée et de nouvelles forces étant venues du sud, la cité ne pouvait être mieux garnie. Selon ce que rapportaient les éclaireurs, les chemins de l'Est étaient vides d'ennemis jusqu'au roi tombé à la croisée des routes. L'Ouest était prêt pour son dernier coup de dé. Légolas et Gimli chevaucheraient de nouveau ensemble, en compagnie d'Aragorn et de Gandalf, lesquels iraient à l'avant-garde avec les Dúnedain et les fils d'Elrond. Mais Merry, à sa honte, ne serait pas des leurs. « Vous n'êtes pas en état de faire un tel voyage, » dit Aragorn. « Mais il n'y a aucune raison d'avoir honte. Si dans cette guerre vous ne faites plus rien, vous aurez déjà gagné beaucoup d'honneur. Pérégrin sera là pour représenter les gens du comté, et il ne faut pas lui envier sa chance de péril, car bien qu'il ait fait au mieux selon ce que la fortune lui offrait, il lui reste encore à égaler votre exploit. Mais à dire vrai, tous courent à présent le même danger. Il se pourrait que notre rôle soit de trouver une fin cruelle devant la porte du Mordor. Mais si tel est le cas, vous aurez vous aussi un dernier combat à livrer, ici ou en quelque autre lieu où la marée noire vous surprendra. Adieu. » Ainsi, démoralisé, Merry resta à observer le rassemblement de l'armée. Bergil était avec lui, tout aussi abattu, car son père devait marcher à la tête d'une compagnie des hommes de la cité. Il ne pouvait rejoindre la garde avant que sa cause ne fût jugée. Pipin irait au sein de cette même compagnie en tant que soldat du Gondor. Merry apercevait non loin sa silhouette, courte mais droite, parmi les hautes formes des guerriers de Minas Tirith. Enfin, les trompettes retentirent et l'armée se mit en mouvement. Troupe après troupe, compagnie après compagnie, ils tournèrent et partirent vers l'est. Et longtemps, après qu'il les eut perdus de vue sur la grande route menant à la chaussée, Merry demeura là. Le soleil matinal étincela une dernière fois sur la lance et le haume, puis disparut. Mais Merry restait figée, la tête baissée et le cœur lourd, sans amis, seul au monde. Tous ceux qui lui étaient chers étaient partis dans les ténèbres qui pesaient sur le ciel de l'Est. Et dans son cœur ne restait presque plus aucun espoir de les revoir jamais. Comme ravivé par son humeur noire, la douleur revint à son bras. Il se sentait faible et vieux, et la lumière du soleil paraissait ténue. Le contact de la main de Bergil le sortit de sa torpeur. « Venez, maître Périan, » dit le garçon. « Vous êtes encore souffrant à ce que je vois. Je vais vous aider à rentrer chez les guérisseurs. Mais n'ayez pas peur, ils vont revenir. Les hommes de Minas Tirith ne seront jamais défaits. Et maintenant, ils ont le seigneur de la pierre elfe et aussi Bérégon de la garde. » L'armée fut à Osgiliath avant midi. Là, tous les artisans et ouvriers dont la cité pouvait se passer étaient à l'œuvre. Certains s'occupaient de renforcer les bacs et les pontons construits par l'ennemi, partiellement détruits lors de sa fuite. Certains amassaient du butin et des provisions, tandis que d'autres, sur la rive orientale au-delà du fleuve, improvisaient des ouvrages de défense sommaire. L'avant-garde passa alors à travers les ruines du vieux Gondor, par-delà le large fleuve et sur le long chemin droit tracé à la grande époque pour relier la belle tour du soleil à la haute tour de la lune devenue Minas Morgul dans sa vallée maudite. À 5000 au-delà d'Osgiliath, ils s'arrêtèrent, mettant un terme à leur première journée de marche. Mais les cavaliers poursuivirent leur route, et avant la tombée du jour, ils atteignirent la croisée des routes et le grand anneau d'arbres où régnait un silence absolu. Aucun signe d'ennemi n'avait été vu, nul cri ni appel n'avait-on entendu, nul trait n'avait sifflé d'entre les rochers ou les broussailles. Pourtant, à mesure qu'ils avançaient, ils sentaient que s'accentuait la vigilance des terres. Arbres et pierres, herbes et feuilles étaient aux aguets. Les ténèbres avaient été chassées. Loin à l'ouest, le couchant baignait la vallée de l'Anduin, et les cimes blanches des montagnes s'empourpraient dans l'air bleuté. mais une ombre et une noirceur planaient sur les Felduath. Aragorn posta alors des trompettes dans chacune des quatre voies qui entraient dans l'anneau d'arbres, et elles sonnèrent une brillante fanfare, et les héros crièrent haut et fort « Les seigneurs du Gondor sont de retour, et tout ce pays qui leur appartient, ils le reprennent aujourd'hui !» La hideuse tête d'orque surmontant la figure sculptée fut jetée bas et réduite en morceaux, et la tête du vieux roi fut soulevée de terre et remise en place, toujours couronnée de fleurs blanches et dorées. Et l'on s'affaira à gratter et à nettoyer tous les odieux gribouillis laissés sur la pierre par les orques. Or, au moment du débat, certains avaient conseillé d'assaillir Minas Morgul en premier et de la détruire entièrement s'ils pouvaient s'en emparer. Et, avait fait valoir Imraïl, la route qui mène de là au col serait peut-être plus favorable à un assaut contre le Seigneur Sombre au lieu de sa porte nord. Toutefois, Gandalf avait signifié sa vive opposition à cause du mal qui hantait la vallée, où l'esprit des vivants serait livré à la folie et à l'horreur, mais aussi à cause des nouvelles apportées par Faramir. Car si le porteur de l'anneau avait bel et bien choisi cette voie, il ne devait surtout pas attirer l'œil du Mordor de ce côté. Ainsi, quand le gros de l'armée les rejoignit le lendemain, ils postèrent une garde importante à la croisée des routes pour servir de défense si le Mordor décidait d'envoyer une force par le col de Morgul ou de faire venir des renforts du sud. À cet effet, ils choisirent surtout des archers qui connaissaient les chemins de l'Ithilienne et qui se cacheraient dans les bois et les pentes aux abords du carrefour. Mais Gandalf et Aragorn chevauchèrent avec l'avant-garde jusqu'à l'entrée du Val de Morgul, d'où ils contemplèrent la cité maléfique. Elle était sombre et sans vie, car ses habitants, orques et autres bestioles du Mordor, avaient été détruits dans la bataille, et les Nazgûl étaient au loin. L'air de la vallée n'en était pas moins lourd d'angoisse et d'animosité. Ils détruisirent alors l'horrible pont, firent monter des flammes rouges dans les champs méphitiques et se retirèrent. Le jour suivant, soit le troisième depuis leur départ de Minas Tirith, l'armée entreprit sa marche vers le nord le long de la route. Il fallait compter une centaine de milles de la croisée des routes jusqu'à la Morannon par ce chemin, et nul ne savait ce qui pouvait leur arriver avant d'avoir parcouru cette distance. Ils allaient ouvertement, mais avec précaution. Des éclaireurs montés les précédaient sur la route, mais d'autres, à pied, les flanquaient de part et d'autre, surtout du côté est, car il y avait là de sombres fourrés et un pays de ravins éboulés et de crêtes effondrées derrière lequel grimpaient les longues pentes austères de l'Efelduath. Le temps restait au beau et le vent ne déviait pas de l'ouest, mais rien ne parvenait à lever les noirceurs et les tristes brumes qui s'accrochaient aux montagnes de l'ombre. Et derrière elles, par moments, s'élevaient de vastes fumées qui flottaient sur les vents d'en haut. De temps à autre, Gandalf faisait sonner les trompettes et les héros criaient « Voici venus les seigneurs du Gondor, que tous quittent ce pays ou se rendent !» Mais Imraïl dit « Ne dites pas les seigneurs du Gondor, dites le roi Elessar, car c'est la vérité, bien qu'il ne soit pas encore monté sur le trône, et l'ennemi sera porté à réfléchir davantage si les héros font entendre ce nom. » Trois fois par jour donc, les héros proclamèrent la venue du roi Elessar. Toutefois, le défi resta sans réponse. Mais bien que leur marche se déroulât dans une apparence de paix, tous les cœurs, du plus élevé au plus humble, étaient abattus, et à chaque mille parcourue vers le nord, un pressentiment de malheur pesait plus lourdement sur eux. Le deuxième jour de marche tirait à sa fin depuis la croisée des routes, quand vint une première invitation à la bataille. En effet, une grande force d'orques et d'orientais tenta de prendre leur compagnie de tête dans une embuscade. C'était à l'endroit même où Faramir avait surpris les hommes du Harad, là où la route traversait une profonde entaille dans une avancée des collines de l'Est. Mais les capitaines de l'Ouest ne manquèrent pas d'être avertis par leurs éclaireurs, d'experts traqueurs de Eneth Anun sous la direction de Mablung. Ainsi, les embusqués furent eux-mêmes pris au piège. Car des hommes montés, après avoir effectué une large boucle vers l'ouest, tombèrent sur le flanc de l'ennemi et sur ses arrières, et tous furent anéantis ou chassés dans les collines à l'est. Mais cette victoire n'eut pas grand-chose pour remonter les capitaines. Ce n'est qu'une feinte, dit Aragorn. Et le but était surtout de nous attirer, m'est avis, en nous faisant croire à la faiblesse de notre ennemi, plutôt que de nous faire grand mal, pour l'instant. Et dès ce soir-là, les Nazgûl les rejoignirent et suivirent chaque mouvement de l'armée. Pour lors, ils ne volaient qu'en hauteur, hors de la vue de tous sauf de Légolas. Mais leur présence était palpable, comme si l'ombre s'épaississait et que le soleil se voilait. Et s'ils s'abstenaient encore de plonger sur leurs adversaires ou d'émettre des cris, la terreur des spectres de l'anneau était comme un joug qu'on ne pouvait secouer. Ainsi passèrent les heures de leur voyage désespéré. 4 jours s'étaient écoulés depuis la croisée des routes, 6 depuis le départ de Minas Tirith, lorsqu'ils quittèrent enfin les terres vivantes et entrèrent peu à peu dans la désolation semée devant les portes du col de Kirith Gorgor. Et ils purent discerner les marais et le désert qui s'étendaient au nord et à l'ouest jusqu'aux Éminmuil. Ces lieux étaient si désolés et l'horreur qu'ils inspiraient si profonde que d'aucuns en perdirent toute contenance et ne purent continuer plus au nord, à pied comme à cheval. Aragorn les regarda, et ses yeux étaient empreints de pitié, mais non de colère, car c'étaient de jeunes hommes du Rohan, venus du lointain Westfold, ou des cultivateurs du Lossarnac, pour qui le Mordor avait été depuis l'enfance un nom de funeste augure, mais irréel, une légende qui n'avait aucune prise sur leur simple existence. Et ils marchaient à présent dans un rêve affreux devenu réalité, sans pouvoir comprendre cette guerre ni pourquoi le sort les avait conduits à pareille extrémité.
« Partez !» dit Aragorn. « Mais n'abandonnez pas toute dignité et ne courez pas. Et il est quelque chose que vous pourriez tenter pour vous sauver un peu du déshonneur. Prenez au sud-ouest, jusqu'à Cair Andros. Et si l'île est encore aux mains d'ennemis comme je le pense, reprenez-la si vous le pouvez, et tenez-la jusqu'au bout pour la défense du Gondor et du Rohan. »
Alors certains d'entre eux, honteux de la clémence qui leur était montrée, surmontèrent leurs craintes et poursuivirent le voyage. Mais les autres se raccrochèrent à ce nouvel espoir, celui d'un acte de bravoure à leur mesure, et ils quittèrent les rangs pour se tourner ailleurs. Ainsi, bon nombre de troupes ayant déjà été laissées à la croisée des routes, ce fut avec moins de 6 000 hommes que les capitaines de l'Ouest allèrent finalement défier la Porte Noire et la puissance du Mordor. Ils ralentirent néanmoins l'allure, croyant recevoir à tout moment quelques réponses à leurs défis, et ils se regroupèrent, car c'eût été un gaspillage d'hommes que d'envoyer des éclaireurs ou de petits détachements. À la tombée du 5e jour, depuis le Val de Morgul, ils établirent un dernier campement, autour duquel ils allumèrent des feux, avec ce qu'ils trouvèrent de bois mort et de bruyères sèches. Ils passèrent la nuit à veiller. Des êtres à demi entrevus marchaient et rôdaient tout autour d'eux, et l'on entendait des hurlements de loups. Le vent était tombé, et l'air tout entier semblait immobile. Ils n'y voyaient pas grand-chose, car bien que le ciel fût sans nuages et la lune vieille de 4 jours, des fumées et des vapeurs s'exhalaient du sol, et le croissant blanc était voilé par les brumes du Mordor. Il commença à faire froid. Au matin, le vent se leva de nouveau, mais il venait à présent du nord, et bientôt il fraîchit, et une bonne brise souffla. Tous les marcheurs nocturnes avaient disparu, et les terres semblaient vides. Au nord, au milieu de fosses nauséabondes, se dressaient les premiers amas de scories, d'éclats de roches et de terres calcinées, vomissures de la vermine du Mordor. Mais au sud, maintenant tout proche, se dessinait le vaste rempart de Kirith Gorgor, avec la Porte Noire en son milieu et les 2 tours des Dents de part et d'autre. Car lors de leur dernière marche, les capitaines s'étaient détournés de la vieille route qui bifurquait vers l'est, évitant ainsi la menace des collines, et ils approchaient à présent la Morannon par le nord-ouest, tout comme Frodo l'avait fait.